Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici à nouveau ensemble dans nos Lectures en liberté pour la suite de cette aventure de Sherlock Holmes, le ruban moucheté. Nous n'éprouvâmes aucune difficulté, Sherlock Holmes et moi, à louer une chambre et un salon à l'auberge de la Couronne. Cet appartement était situé au premier étage, si bien que de notre fenêtre, nous avions vu sur la porte d'entrée et sur l'aile habitée du manoir de Stoke Moran. À la nuit tombante, nous aperçûmes le docteur Roylott qui franchissait le seuil de sa propriété. Sa haute silhouette semblait écraser celle du cocher qui le conduisait. Le cocher eut du mal à faire jouer les lourdes portes de fer et nous entendîmes le rugissement du docteur. Nous pûmes même le voir menacer de ses poings le malheureux conducteur. Puis la voiture se remit en marche. Quelques instants plus tard, une lumière brilla à travers les arbres. Une lampe avait été allumée dans l'un des salons. Sérieusement, Watson, me dit Holmes, alors que nous étions en train de contempler la nuit, savez-vous que j'ai quelques remords à vous avoir emmené ce soir? Il y a certainement du danger dans l'air. Est-ce que je pourrais vous aider? Votre présence peut s'avérer déterminante. Alors je vous suivrai. C'est très chic de votre part. Vous avez parlé de danger. Évidemment, vous avez vu dans ces chambres bien plus que je n'y ai vu moi-même.
Non. Ce qui est possible, c'est que j'ai poussé mes déductions plus loin que vous. Mais nous avons vu les mêmes choses, vous et moi.
Je n'ai rien vu de particulier, moi, sauf ce cordon à sonnette dont l'installation répond à un but que je suis incapable de définir.
Vous avez vu aussi la bouche d'aération.
Oui, mais je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à établir une sorte de communication entre deux pièces. Le trou est si petit qu'un rat pourrait à peine s'y glisser.
Je savais, avant d'arriver à Stoke Moran, que nous trouverions une bouche d'aération.
Oh, mon cher Holmes!
Oui, je le savais. Rappelez-vous que dans la déclaration de Mademoiselle Stoner, il y avait ce trait que sa sœur était incommodée par l'odeur du cigare du docteur Roylott. D'où la nécessité absolue d'une communication quelconque entre les deux chambres. Communication qui ne pouvait être que petite, sinon elle aurait été repérée lors de l'enquête menée par le coroner.
J'avais conclu qu'il s'agissait d'une bouche d'aération.
Soit, mais quel mal voyez-vous à cela?
Tout de même, il y a d'étranges coïncidences de date. Voici une bouche d'aération qui est aménagée, un cordon qui pend et une demoiselle couchée dans son lit qui meurt. Ça ne vous frappe pas?
Je ne vois pas le lien.
Vous n'avez rien observé de particulier à propos du lit?
Non. Il est chevillé au plancher.
Avez-vous déjà vu un lit attaché ainsi?
Oh, je ne crois pas.
La demoiselle ne pouvait pas remuer son lit, le déplacer. Il devait par conséquent être maintenu toujours dans la même position par rapport à la bouche d'aération et au cordon, ou plutôt à la corde, puisque cet objet n'a jamais servi à sonner une cloche ou actionner une sonnerie.
Holmes, m'écriai-je, il me semble que je devine obscurément le sens de vos paroles. Mon Dieu, nous sommes arrivés à temps pour empêcher un crime aussi subtil qu'horrible.
Oui, plutôt subtil et plutôt horrible.
Quand un médecin s'y met, Watson, il est le pire des criminels. Il possède du sang-froid et une science incontestable. Mais je crois, Watson, que nous serons plus forts que lui. Je crois aussi que d'ici le lever du jour, nous ne manquerons pas de sujets d'horreur. Au nom du ciel, fumons paisiblement une bonne pipe et cherchons-nous pendant quelques moments des sujets de conversation plus agréables. Vers 9 heures du soir, la lumière parmi les arbres s'éteignit et l'obscurité se fit totale dans la direction du manoir. 2 heures s'écoulèrent avec une lenteur irritante, puis, tout à coup, comme sonnait 11 heures, une lumière isolée jaillit faiblement juste en face de nous. « Notre signal !» dit Holmes en sautant sur ses pieds. « Il vient de la fenêtre du milieu !» En sortant, nous prévînmes notre logeur que nous allions rendre une visite tardive à une connaissance dans les environs et qu'il n'était pas impossible que nous y passions la nuit. Puis, nous nous engageâmes sur la route noire. Un vent glacé nous fouettait le visage. C'était sinistre. Seule, une maigre lueur jaune guidait notre marche à travers l'obscurité. Nous pénétrâmes facilement dans le domaine car le vieux mur d'enceinte était troué de nombreuses brèches. Nous avançâmes à travers les arbres, nous atteignîmes la pelouse, la franchîmes et nous allions enjamber la fenêtre quand jaillit d'un bosquet de laurier ce qui nous sembla être un enfant hideux, tout tordu. Il se lança sur la pelouse à 4 pattes et disparut dans la nuit. « Seigneur !» murmurai-je. « Vous avez vu Holmes ?» Pendant une seconde, Holmes resta figé de stupeur. Il avait posé sa main sur mon poignet et il l'avait serré comme une tenaille. Puis, il le lâcha. Et il rit tout bas, en me chuchotant à l'oreille. « Charmante maison, c'était le babouin !» J'avais oublié les étranges manies du docteur. C'est vrai, il possédait un babouin et aussi un guépard. Peut-être ce dernier bondirait-il sur nos épaules au moment où nous nous y attendrions le moins. J'avoue bien volontiers que je me sentis l'esprit plus libre quand, après avoir suivi l'exemple de Holmes et m'être déchaussé, je me trouvai dans la chambre à coucher. Sans un bruit, mon camarade referma les persiennes, remit la lampe sur la table et jeta un coup d'œil autour de la pièce. Tout était dans le même état que l'après-midi. Holmes se glissa auprès de moi, mit sa main en cornet contre mon oreille, et les seuls mots que je compris furent « Le moindre bruit peut nous être fatal. » Je lui fis un signe de tête pour lui indiquer que j'avais entendu. « Nous devons rester sans lumière. Il pourrait la voir par la bouche d'aération. » Nouveau signe de tête. Ne vous endormez pas. Votre vie peut dépendre d'un moment d'inattention. Mettez votre revolver à portée de la main. Vous aurez peut-être à vous en servir. Je m'assieds à côté du lit. Vous prenez cette chaise. Je sortis mon revolver et le plaçai sur le coin de la table. Holmes avait apporté un jonc long et mince. Il le posa à côté de lui, sur le lit, non loin de la boîte d'allumettes et d'une bougie. Puis il éteignit la lampe et nous sombrâmes dans l'obscurité. Comment pourrais-je jamais oublier cette terrible veille? Je n'entendais pas un bruit. Même pas le souffle de mon compagnon, dont je savais pourtant qu'il était assis tout près de moi, les yeux grands ouverts, et dévoré par une tension semblable à la mienne. Les persiennes étaient absolument hermétiques, nous étions plongés dans une nuit totale. Parfois, de l'extérieur, nous parvenait le ululement d'un nocturne. Sous notre fenêtre, nous entendîmes même une sorte de miaulement prolongé. Le guépard était vraiment en liberté. L'horloge de la paroisse voisine, tous les quarts d'heure, tintait lugubrement. Ah, qu'ils étaient longs, ces quarts d'heure. Minuit, puis 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures sonnèrent. Nous n'avions pas bougé de place, nous étions prêts à tout. Subitement, du côté de la bouche d'aération, surgit un rayon lumineux qui disparut aussitôt. Immédiatement lui succéda une forte odeur d'huile brûlante et de métal chauffé. Dans la chambre voisine, quelqu'un avait allumé une lanterne sourde. J'entendis un léger bruit qui se déplaçait. Puis tout redevint silencieux comme avant. Mais l'odeur se faisait plus forte. Pendant 1 demi-heure, je restai assis, l'oreille tendue. Alors, soudain, un autre bruit se fit entendre. Un son léger, très doux, quelque chose comme un petit jet de vapeur qui s'échappe d'une bouilloire. Au moment où nous l'entendîmes, Holmes sauta du lit, gratta une allumette et frappa de son jonc avec fureur sur le cordon de la sonnette. « Vous le voyez, Watson ? » hurla-t-il. « Vous le voyez ?» Je ne voyais rien. Lorsque Holmes avait allumé l'allumette, j'avais entendu un sifflement distinct, quoique étouffé. Mais la lueur brusque m'avait ébloui. Et il m'était impossible d'identifier ce qu'il flagellait avec une telle sauvagerie. Je pus apercevoir toutefois la pâleur de son visage, bouleversé d'horreur et de dégoût. Il s'était arrêté de frapper. Il avait les yeux levés vers la bouche d'aération. Quand le cri le plus horrifié que j'ai jamais entendu déchira soudain le silence de la nuit. Le cri monta, s'enfla. Un hurlement sauvage, fait de douleur, de terreur et de colère. Dans le village et même plus loin, on affirma plus tard que ce cri avait fait sauter du lit des gens qui dormaient. Il glaça nos cœurs. Interdit, pétrifié, je regardais Holmes. Et lui, toujours blanc comme un linge, me regarda. Nous écoutâmes les derniers échos décroître et se perdre dans le silence qu'il avait brisé. « Qu'est-ce que c'est ? » bégayai-je alors. « Tout est consommé, » répondit Holmes. « Après tout, peut-être pour le mieux. Prenez votre revolver et entrons chez le docteur Roylott. » Il y avait sur ses traits une implacable gravité quand il alluma la lampe. Deux fois, il frappa à la porte de la chambre sans recevoir de réponse. Ce que voyant, il tourna le loquet et entra. Je le suivis pas à pas, mon revolver armé à la main.
Un rat est venu dans ma chambre. Il a rangé la souricière, il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris entre mes bras blancs, il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux Bobby. Ne siffle pas sur les quais endormis. Quand je tiendrai la main de mon chéri. Un chinois est sorti de l'ombre. Un chinois a regardé Londres. sa casquette était de marine, ornée d'une encre coralline. Devant la porte de Charlie, à peine Finch lui a souri. Dans le silence de la nuit, en chuchotant, je lui ai dit: je voudrais, je ne sais trop quoi. Je voudrais ne plus entendre ma voix. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. Sur son maillot de laine bleue, on pouvait lire en lettres rondes le nom d'une vieille compagnie qui paraît-il fait le tour du monde. Nous sommes entrés chez Charlie, à peine et fins loin des soucis. Et j'ai dansé toute la nuit avec mon shintok ébloui. Et chez Charlie il faisait jour et chaud. Sur son vieux piano, un piano avec des dents de chameau. J'ai conduit le chinois dans ma chambre, il a mis le rat à la porte, il a remonté la pendule, il a rempli le pot à bière. Je l'ai pris dans mes bras tremblants, c'est comme un enfant. Il s'est endormi sur le dos, alors je lui ai pris son couteau. C'était un couteau perfide et glacé, un sale couteau rouge de vérité. Un sale couteau rouge sans spécialité.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Nous voici de retour dans nos lectures en liberté, après ce moment musical, pour la fin de l'aventure de Sherlock Holmes intitulée Le ruban moucheté. Et nous reprendrons dans la foulée le début d'une autre aventure, Le dernier problème. Ce fut un singulier spectacle qui s'offrit à nos yeux. Sur la table, il y avait une lanterne sourde, avec le volet à demi ouvert. Et elle éclairait le coffre de fer dont la porte était entrebâillée. À côté de la table, sur la chaise de bois, était assis le docteur Roylott. Il était vêtu d'une longue robe de chambre grise, sous laquelle dépassaient ses chevilles nues. Il avait aux pieds des babouches rouges. En travers de ses cuisses était posée la longue lanière que nous avions remarquée dans l'après-midi. Son menton pointait en l'air, et son regard était horriblement immobilisé sur un angle du plafond. Son front était ceint d'un ruban jaune bizarre, avec des taches brunes, et qui paraissait lui serrer très fort la tête. Quand nous entrâmes, il ne bougea ni ne parla. Le ruban moucheté, chuchota Holmes. J'avançai d'un pas. Au même moment, l'étrange turban se déplaça, se dressa à la verticale au milieu des cheveux, la tête triangulaire et trapue d'un serpent au cou enflé apparut. « C'est une vipère de marais !» cria Holmes, le serpent le plus mortel des Indes. Le docteur est mort moins de 10 secondes après avoir été mordu. « Ah, la violence retombe bien sur le violent, et tel est pris qu'il croyait prendre !» Ramenons ces bêtes dans son antre, après quoi nous mettrons Mademoiselle Stoner à l'abri et nous irons faire notre rapport à la police. » Tout en parlant, il s'était emparé promptement de la lanière que le vieillard avait sur les genoux. Il passa le nœud autour du cou du reptile, le détacha de sa proie, et à bout de bras, le rejeta dans le coffre-fort qu'il referma soigneusement. Tels sont les faits réels qui concernent la mort du docteur Roylott. Point n'est besoin que je prolonge un récit qui n'a déjà que trop duré. En comptant comment nous apportâmes les nouvelles à la jeune fille épouvantée, comment nous l'accompagnâmes dès le matin chez sa tante de Harrow, ni comment l'enquête de police conclut que le docteur avait été victime de son imprudence en jouant avec l'un de ses favoris. Le peu que j'avais encore à apprendre de l'affaire me fut narré par Sherlock Holmes pendant notre voyage de retour. J'en étais arrivé, m'expliqua-t-il, à une conclusion entièrement erronée. Ce qui montre, mon cher Watson, combien il est périlleux de raisonner à partir de prémices incomplètes. La présence des romanichels et le mot « ruban » dont se servit la pauvre Julie pour tenter de donner une définition de ce qu'elle avait pu apercevoir à la lueur de son allumette me mirent sur une piste ridiculement fausse. Mon seul mérite est d'avoir instantanément revisé mon jugement lorsque je fus convaincu que le danger qui menaçait l'occupante de la chambre ne pouvait venir de l'extérieur, ni par la fenêtre, ni par la porte. Cette bouche d'aération et ce cordon de sonnette qui pendait juste au-dessus du lit avaient rapidement éveillé mon attention. Quand je me rendis compte que c'était un faux cordon de sonnette et que le lit était chevillé au plancher, le soupçon me vint aussitôt que le cordon servait de passerelle à quelque chose se faufilant à travers la bouche d'aération et arrivant jusqu'au lit. Je pensais à un serpent, naturellement. Et lorsque je reliais cette hypothèse avec le fait que le docteur avait un assortiment d'animaux des Indes, je me crus sur la bonne voie. Seul un homme impitoyable et intelligent qui était allé en Orient pouvait avoir eu l'idée d'utiliser une sorte de poison que la chimie est impuissante à déceler. L'effet foudroyant d'un tel poison était également un avantage. Il aurait fallu que le coroner eût de bons yeux pour apercevoir les deux petites taches noires qui lui auraient indiqué l'endroit où les crochets empoisonnés avaient fait leur œuvre. Puis je réfléchis au sifflement. Évidemment, le docteur devait rappeler le serpent avant que la lumière du jour ne pût le révéler à sa victime. Il l'avait dressé sans doute, grâce au lait que nous avons vu sur le coffre-fort, à revenir dès qu'il sifflait. Il le faisait passer par la bouche d'aération, à l'heure qu'il jugeait la meilleure, et il était bien sûr que le serpent ramperait le long de la corde et atterrirait sur le lit. La question était de savoir s'il mordrait ou ne mordrait pas la dormeuse. Peut-être a-t-elle échappé pendant toute une semaine à son destin. Mais tôt ou tard, elle devait succomber. J'avais abouti à ces conclusions avant d'entrer dans la chambre du docteur. L'inspection de sa chaise me prouva qu'il avait l'habitude de grimper sur ce siège, ce qui lui était indispensable pour atteindre la bouche d'aération. Le coffre-fort, le bol de lait, la lanière et son nœud coulant suffirent à ôter tous les doutes qui auraient pu subsister dans mon esprit. Le bruit métallique entendu par Mademoiselle Stoner fut produit sans doute par la porte du coffre-fort que le docteur refermait en hâte sur son terrible locataire. Ayant tout deviné, je pris la disposition que vous m'avez vue prendre afin d'avoir la preuve de ce que je supposais. J'entendis le bruissement de la bête qui glissait le long du cordon. Vous avez dû l'entendre aussi. Aussitôt, j'ai frotté une allumette et je suis passé à l'attaque. Avec pour résultat sa retraite à travers la bouche d'aération. Et comme deuxième résultat, celui de l'avoir fait se retourner vers son maître. Quelques-uns de mes coups de canne ont dû l'atteindre, le rendre furieux, et comme tout serpent furieux, il a attaqué la première personne qu'il a vue. Si vous voulez, je m'avoue responsable indirectement du décès du docteur Roylott, mais c'est une responsabilité qui ne pèse pas lourd sur ma conscience. Voilà, nous avons terminé la lecture donc de cette aventure de Sherlock Holmes, le ruban boucheté, et je vous propose d'enchaîner directement sur une nouvelle aventure intitulée « Le dernier problème ». Toujours donc les aventures de Sherlock Holmes, « Le dernier problème ». C'est avec tristesse que je prends ma plume pour évoquer une dernière fois les talents prestigieux qui firent de mon ami M. Sherlock Holmes un être exceptionnel. Non sans incohérence, et je le sens profondément d'une manière indigne, j'ai tenté de raconter quelques-unes des aventures que j'ai vécues en sa compagnie. Depuis le bienheureux hasard qui nous réunit à l'époque de l'étude en rouge, jusqu'au jour où il intervint dans l'affaire du traité naval. Intervention qui eut pour principal effet d'éviter sérieuses complications internationales. J'avais l'intention de m'arrêter là et de ne rien dire de l'événement qui a creusé dans ma vie un vide que deux années n'ont absolument pas comblé. Toutefois, les dernières lettres dans lesquelles le colonel James Moriarty défend la mémoire de son frère me forcent la main. Je ne peux plus hésiter. Il faut que j'expose au public les faits tels qu'ils se sont déroulés. Moi seul connais la vérité totale sur l'affaire. La terre aujourd'hui ne servirait que l'injustice. Pour autant que je sois informé, trois récits seulement ont paru dans la presse. Celui du Journal de Genève, le 6 mai 1891. La dépêche Reuter, qu'ont publié les journaux anglais, du 7 mai. Et enfin, les lettres récentes auxquelles j'ai fait allusion. Les deux premiers ont été fortement condensés, et le dernier n'est pas autre chose, comme je le montrerai, qu'un travestissement des faits. Il m'appartient donc de raconter, pour la première fois, ce qui se passa exactement entre le professeur Moriarty et M. Sherlock Holmes. On se rappelle peut-être qu'après mon mariage et l'installation subséquente de mon cabinet médical, les relations très intimes qui avaient existé entre Holmes et moi se modifièrent jusqu'à un certain point. De temps à autre, il venait me chercher quand il avait besoin d'un compagnon pour ses enquêtes. Mais ces occasions se raréfièrent au point qu'en 1890, mes notes ne me signalent que trois affaires que nous fîmes ensemble. Pendant l'hiver de cette année et le début du printemps 1891, j'avais lu dans les journaux que le gouvernement français l'avait chargé d'une mission capitale. Je reçus d'ailleurs de Holmes deux billets datés l'un de Narbonne, l'autre de Nîmes, d'où j'avais déduit que son séjour en France serait vraisemblablement de longue durée. Ce fut donc avec un certain étonnement que je le vis entrer dans mon cabinet de consultation le 24 avril au soir. Je remarquai qu'il paraissait encore plus blanc et plus maigre que d'habitude. « Oui, j'ai usé un peu trop librement avec moi-même, » fit-il, en répondant plus à mon regard qu'à mes paroles. « J'ai été terriblement bousculé ces temps-ci. Verriez-vous un inconvénient à fermer les volets ?» La seule lumière de la pièce provenait de ma lampe de bureau, car je lisais. Holmes, sans attendre, longea le mur, attrapa les volets et les attacha solidement. « Vous avez peur de quelque chose ?» demandai-je. « Oui,
J'ai peur. De quoi ? De fusil à vent.
Mon cher Holmes, mais qu'entendez-vous par là ?
Je pense que vous me connaissez assez, Watson, pour admettre que je ne suis d'aucune façon un nerveux. D'autre part, ce n'est pas être courageux, c'est être stupide que de refuser de croire au danger quand il vous menace de près. Avez-vous une allumette ?
Il aspira une grande bouffée de fumée, comme si elle pouvait avoir une influence apaisante sur lui.
Je vous dois des excuses pour vous déranger si tard, reprit-il, et j'irai jusqu'à vous prier de faire fi des conventions pour m'autoriser à quitter bientôt votre maison en escaladant le mur de votre jardin. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Il me tendit une main, et je vis à la lumière de la lampe que deux de ses articulations étaient brisées et saignaient.
« Ce n'était pas le vent, cela, dit-il en souriant. Au contraire, c'était assez solide pour qu'un homme manquât de se briser la main dessus.
Est-ce que Madame Watson est ici ?
Elle est sortie pour faire une visite. Alors, je suis plus à l'aise pour vous proposer de partir avec moi, passer une semaine sur le continent.
Où ?
Oh, n'importe où, partout, c'est la même chose pour moi.
Tout cela était étrange. Holmes ne m'avait guère accoutumé à prendre des vacances oisives. Par ailleurs, la pâleur de son visage, la crispation de ses traits, me révélaient que ses nerfs étaient soumis à une tension très dure. Il lut dans mes yeux une interrogation, et réunissant les extrémités de ses longs doigts minces avec ses coudes posés sur ses genoux, il m'expliqua la situation.
Vous avez sans doute entendu parler du professeur Moriarty.
Jamais.
Voilà, nous avons terminé pour ce soir cette aventure de Sherlock Holmes, donc le dernier problème que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.